Vous êtes sur RTL.
On refait le sport sur RTL.
Avec le Parisien, aujourd'hui en France.
Isabelle Langer.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette demi-heure dont refait le sport. La question du soir, y a-t-il un effet JO deux mois après Tokyo? Les sports qui ont brillé au Japon comme le judo, l'escrime et le BHV, basket, hand, volley, récoltent-ils les fruits de leurs titres olympiques? Qui sont les grands gagnants? Après deux ans de pandémie, les clubs retrouvent-ils leurs licenciés? Et est-ce que le pass sanitaire est un frein? Les interrogations sont nombreuses et pour y répondre, Éric Tanguy, le président de la Fédération française de volleyball, bonsoir.
Bonsoir.
Charles-Henri Bernardi, le président du PUC, le Paris Université Club, bonsoir.
Bonsoir.
Et en ligne avec nous depuis Marseille, le président de la Fédération française de handball, Philippe Bana, bonsoir.
Bonsoir Isabelle, bonsoir les amis.
Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, je vous donne la parole, mais auparavant, je vous propose de revenir sur les résultats sportifs de ce dimanche. Bonsoir Quentin Vasselin.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Il y avait du handball.
Oui, c'est tout chaud et vous serez heureux d'apprendre, Philippe Bana, que l'équipe de France féminine s'est imposée facilement contre l'Ukraine en handball. C'était les qualifications pour l'Euro 2022. Victoire 28 à 25. Les Bleus, leaders de leur groupe avec deux victoires en deux matchs. Ça a été quand même difficile, mais elles ont quand même réussi à l'emporter.
Avec une équipe qui se reconstruit tout doucement, avec des nouvelles qui arrivent, Philippe Bana.
Oui, des nouvelles qui arrivent. Toutes les tôlières sont restées à la maison, dans leur club, au repos. Des petites jeunes pleines de peps et de pétillants dans la direction de 2024. Un vrai bonheur.
C'est pas mal cette relève. Quentin, il y avait aussi de la Formule 1 aujourd'hui.
Oui, Grand Prix de Turquie, relativement humide. Bonsoir Frédéric Veil.
Bonsoir tout le monde.
Alors Mercedes est illustré, mais pas avec le pilote que l'on imaginait.
Ah, effectivement, ce n'est pas le septuple, le champion du monde qui s'est illustré cet après-midi, mais le pilote qui quittera Mercedes en fin d'année pour rejoindre Alfa Romeo. Valtteri Bottas s'est donc imposé avec brio et réalise un carton plein, puisque ce week-end il a, avec le déclassement d'Hamilton, décroché la pole, gagné le Grand Prix et empoché le meilleur tour en course pour sa 10e victoire en Formule 1, sa première depuis le Grand Prix de Russie l'an passé. Bottas l'emporte donc devant Verstappen et Perez, deux Red Bull sur le podium. Charles Leclerc et sa Ferrari, un temps en tête du Grand Prix qui espérait s'imposer, que cette musée termine finalement quatrième devant Hamilton.
Et oui, Lewis Hamilton donc, qui perd des points sur Max Verstappen, Frédéric Veil.
Ouais, Hamilton, le grand perdant du jour, hein, dans cette 16e manche du championnat du monde. Il était en tête avec deux points d'avance sur Verstappen. Il est ce soir deuxième à 6 points du Néerlandais, puisque sa 5e place cet après-midi en Turquie ne lui a rapporté que 10 points contre 18 au pilote Red Bull. Rappelons qu'auteur de la pole hier, Hamilton était parti 11e après avoir écopé d'une pénalité pour changement d'élément moteur. Ce qu'il faut retenir de ce Grand Prix de Turquie, c'est la grosse erreur de stratégie de Mercedes qui a fait rentrer Hamilton au stand beaucoup trop tard pour qu'il change ses pneus alors qu'il restait que 7 tours. Hamilton, 3e à ce moment-là, et on l'a entendu, hein, l'échange radio avec son ingénieur n'était pas content du tout. Il voulait rester en piste avec ses pneus usés, mais c'est finalement plié aux ordres de son écurie et repassé pour les stands, par les stands, perdant donc 2 places et donc de précieux points au classement mondial. En zone mixte d'interview après la course, je peux vous dire que la colère d'Hamilton était toujours palpable. Nous, à 6 tours de six grands prix de la fin de la saison, le duel Hamilton, Verstappen est loin d'être terminé. Tant mieux pour le spectacle.
On se retrouve quand, Fred, pour le prochain Grand Prix?
Dans 15 jours aux États-Unis, ce sera le 24 octobre sur la superbe piste d'Austin dans le Texas.
Et ce sera le même week-end, d'ailleurs, le même dimanche, hein, où Monsieur Quartararo en moto pourrait bien devenir champion du monde.
Oh que oui, ce sera le Grand Prix, peut-être la première balle de match pour Fabio Quartararo sur ce circuit de Misano en Italie.
Merci beaucoup Fred Veil, bonne soirée.
Merci à vous, bonne soirée.
Quentin, en cyclisme, dernier coup de pédale de la saison.
Oui, c'est Arnaud Démare qui remporte la 115e édition de Paris-Tours au sprint devant Franck Bonamour et Jasper Stuyvesant. Premier succès tricolore dans cette classique depuis 2006, de quoi ravir forcément le sprinter de la Groupama FDJ.
Vraiment beaucoup d'émotions parce que voilà, on sait ce que j'ai traversé ces derniers temps où pas de réussite, pas forcément les jambes comme je le voulais, et puis aujourd'hui c'était une journée vraiment idéale avec un sprint à l'arraché. Je voulais vraiment pas me louper, j'ai tout mis et puis vraiment très très heureux.
Arnaud Démare n'avait plus levé les bras sur la ligne d'arrivée depuis 4 mois en rugby. Match de la peur ce soir entre deux géants du top 14. Le Stade français, dernier, reçoit Clermont, 11e. Coup d'envoi de ce choc à 21h05.
En football, la France retrouve ce soir l'Espagne en finale de la Ligue des Nations.
Oui, et cet après-midi, l'Italie s'est imposée 2-1 contre la Belgique dans la petite finale de cette Ligue des Nations. Mais ce qui nous intéresse, c'est bien la finale entre la France et l'Espagne dans l'enceinte mythique de San Siro à Milan. Bonsoir Philippe Sanfour chez Nicolas Georgerot.
Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Vous êtes nos envoyés spéciaux en Italie, nos petits chanceux qui vont commenter le match tout à l'heure. Et on connaît la composition de l'équipe de France.
Oui, il y aura deux changements dans le 11 de l'équipe de France. Rabiot, positif au Covid, c'est bien Tchouaméni, 21 ans, le milieu de Monaco, qui va connaître sa cinquième sélection. Et Kimpembe qui remplace Lucas Hernandez, qui a été parfois, par séquence, par moment, en difficulté face à la Belgique. Donc avec Kimpembe, Varane, Koundé derrière, ce 3-4-3 aligné pour la troisième fois par Didier Deschamps, Théo Hernandez, Tchouaméni, Pogba, Pavard. Et évidemment Griezmann avec Mbappé et Benzema en attaque côté espagnol. Ferran Torres sera bel et bien titulaire avec la Roja et on attend cette affiche avec beaucoup de gourmandise.
Oui, un grand appétit effectivement ce soir pour voir ces bleus rebondir et surfer sur la dynamique de la Belgique, parce qu'on n'oublie pas que sur les 7 dernières rencontres disputées, l'équipe de France a été menée à 6 reprises, une équipe de France à réaction qui va donc essayer de rentrer directement dans son match. Ils sont au stade ici à San Siro, ils sont arrivés. C'est Karim Benzema qui est descendu déterminé le premier du quart de l'équipe de France, avec 4000 supporters français ce soir présents dans cette mythique enceinte, vous le disiez, de San Siro, qui disparaîtra après les Jeux d'hiver de Milan.
On n'a plus 2026. De respect pour rien.
Régalez-vous les garçons.
Merci, oui. Tout à l'heure.
On a faim.
On vous retrouve dès 20h dans RTL Foot avec les copains Eric Silvestro et Giovanni Castaldi.
Les volleyeurs et handballeurs champions olympiques, c'est énormissime.
Bah là, on réalise pas trop, franchement, c'est chaud. Sur le podium, déjà, mais là, on est encore sur notre nuage, là, on sait pas ce qui se passe, en fait. Je sens qu'on a fait un truc grand.
C'est dur de réaliser, là, je suis désolée. Beaucoup de choses, beaucoup d'émotions qui remontent. Je savais qu'on allait aller au bout, j'ai pas arrêté de le répéter.
Ah, c'est génial, ça montre toute la qualité de ce qu'on fait en France, que ce soit chez les hommes, chez les femmes. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose pour le handball français.
Ah, il avait bien raison, Nicolas Karabatic, triple champion olympique de hand, comme Alison Pineau, sacrée avec les filles du hand, ou Erwin Encapet, la star du volley français. Les sports co nous ont fait rêver cet été à Tokyo. Et je vais demander sans plus attendre d'ailleurs à nos deux présidents de fédération, Eric Tanguy pour le volley et Philippe Bana pour le hand. Messieurs, ça fait du bien de réécouter ces moments de bonheur, Eric Tanguy.
On ne s'en lasse pas, c'est un véritable plaisir et on a vraiment vécu un été merveilleux et vraiment nos joueurs de l'équipe de France nous ont régalés et ont fait ce qu'ils pouvaient faire de plus beau pour le volley français.
Philippe Bana, entendre Nicolas Karabatic, Alison Pineau.
Ouais, ils avaient traversé ce tunnel du Covid à coups de tests PCR, à coups de difficultés, à coups de matchs avec personne. Ils ont traversé le tunnel jusqu'au bout de Tokyo, mais à l'autre bout du tunnel, il y avait des millions de gens qui les regardaient tous avec cette idée d'être ensemble, tout simplement, d'avoir le goût des autres comme un sport co. Oui, c'était un grand, grand, grand moment, surtout pour les Français.
Alors justement, messieurs, nous avons voulu savoir si les médailles d'or des Bleus aux Jeux Olympiques ont donné envie aux Français de découvrir de nouvelles disciplines ou tout simplement de se remettre au sport. Bonsoir Céline Braque.
Bonsoir Isabelle.
Vous êtes directrice générale de Doxa et vous avez réalisé cette enquête pour Kenéo et RTL. Le premier dossier d'abord, Céline, y a-t-il un effet JO sur ces disciplines ?
Bah oui, on peut dire que cet engouement que vous nous avez fait réécouter, il a donné envie à une partie des Français de se lever de leur canapé, puisqu'on a 20% des Français qui nous disent que les JO leur ont donné envie soit d'essayer, soit de pratiquer un des sports qu'ils ont suivis lors des épreuves. Ça veut dire que parmi les 20%, on en a 12% qui pratiquaient déjà un sport, une discipline des JO, et qui ont envie finalement de pratiquer encore un peu plus leur sport, et 8% qui ont envie d'essayer un nouveau sport. Et ça veut dire que ça fait un beau potentiel, parce que ça veut dire que c'est 4 millions supplémentaires de pratiquants, bon, c'est un potentiel évidemment, oui. Possible, ça fait un sacré vivier et on a beaucoup de jeunes qui disent cela et je crois que vous avez pu confirmer que dans certaines disciplines, en effet, il y en a beaucoup qui se pressent pour venir s'inscrire.
On va en parler dans un instant, notamment pour le volleyball. Le pass sanitaire, Céline, est-il obligatoire qui est obligatoire en club pour les adultes, mais oui. Aussi pour les 12-17 ans, est-ce que c'est un frein ?
Oui, c'est un peu un vent contraire par rapport à ce que je viens de vous dire par rapport au JO, puisqu'on a un Français sur 5, 18% exactement, qui nous dit « j'ai renoncé » ou en tout cas j'ai rencontré des difficultés pour réaliser une inscription sportive en raison des exigences du pass sanitaire. Donc ça fait beaucoup et ça fait particulièrement beaucoup de monde chez les plus jeunes, puisqu'on a les chez les 25-34 ans, 34% qui nous disent « Eh bien oui, on a rencontré cette difficulté, voire on a carrément renoncé à s'inscrire. » Et votre invité disait tout à l'heure « c'est une sortie de tunnel. » C'est vrai qu'on n'est pas encore complètement sorti du tunnel à cause de cette difficulté-là liée au pass sanitaire. Oui.
La dernière question posée dans cette enquête Odoxa pour Kenéo RTL concernait le bénévolat. Beaucoup de clubs ou d'associations sportives, on en parlera dans l'émission, estiment qu'il y a une crise dans dans votre sondage, Céline, 63% quand même des personnes interrogées ne sont pas prêtes à s'engager.
Oui, mais alors il faut voir quand même qu'on a à peu près la moitié des Français qui ne s'intéressent pas du tout au sport. Donc parmi ceux-là, c'est difficile de leur demander de venir devenir bénévole dans un club. Et moi, je verrais le verre un quart plein en disant qu'il y a 23% de Français qui disent « on serait prêt à s'investir dans les activités d'un club ». Ça représente là un potentiel de 12 millions de personnes. Alors évidemment, ce sont des velléités. Ça ne veut pas dire que tout le monde va forcément passer à l'action. Mais ça veut dire qu'il y a quand même un potentiel, en particulier chez les plus jeunes, puisque la proportion elle s'élève à 39%. Ça veut dire que cette population-là, les 18-24 ans, c'est une cible pour la communication des clubs, pour que ces velléités elles se transforment en action.
Tout n'est pas négatif. Merci beaucoup Céline Braque, directrice générale d'Odoxa.
Merci à vous.
Bonne soirée. Nous allons revenir sur ces différents chiffres et thèmes de ce sondage dans l'émission. Mais tout d'abord, Éric Tanguy, le volleyball, on peut dire c'est le grand gagnant quasiment de cet effet JO. Il connaît un début de saison en fanfare dans vos clubs là. Racontez-nous.
Mais c'est vrai que cette médaille est tombée à point. Notre sport avait été lourdement impacté par le Covid, comme tous les sports de salle. Et Philippe sait très bien de quoi je parle. Il l'avait vécu lui aussi dans sa fédération. Mais c'est vrai qu'on a eu, dès le lendemain de la médaille d'or, un engouement des inscriptions vers les clubs. Et l'on constate tous les jours une augmentation du nombre de licenciés, un afflux massif de licenciés, surtout de jeunes, vers les clubs de volleyball pour pratiquer la discipline ou venir essayer.
On m'a dit qu'il y avait des listes d'attente dans certains clubs.
C'est possible.
On m'a dit à Tours, une centaine de personnes sur liste d'attente.
Parce que le club, une fois qu'il a dépassé sa capacité à accueillir, malheureusement, on ne peut pas pousser les murs. Et si on a un gymnase de type C qui comporte 3 terrains, c'est difficile d'en faire 4 quand il ne peut en contenir que 3. Et c'est peut-être là la limite et qui fera malheureusement, et on le déplore, des déçus. Parce que nous, on a envie d'accueillir tout le monde et vraiment d'ouvrir le volleyball, que tous les gens qui ont rêvé puissent venir pratiquer le volleyball, essayer. Et donc, c'est le premier frein que l'on va pouvoir constater.
Des manques de créneaux dans toutes les villes en France ?
Oui, c'est à peu près général. Aujourd'hui, les remontées, donc on a essayé de mesurer avec des clubs, on a réuni nos présidents de ligue, nos présidents de comité pour recueillir un petit peu leurs sentiments sur le terrain. Oui, c'est manque de créneaux et manque d'éducateurs sportifs aussi pour accueillir ces nouveaux licenciés. Parce que le Covid a été destructeur aussi en termes d'emploi. Par exemple, des éducateurs sportifs, entraîneurs qui faisaient 5-6 heures d'entraînement dans un club par semaine sous forme d'auto-entrepreneurs, ils ont dû trouver un autre travail parce qu'il n'y avait plus de travail. Et donc maintenant, ils ne reviennent plus. Et on en a besoin maintenant.
Alors je crois que vous avez un message. Justement, vous allez lancer une campagne nationale.
Alors moi, j'ai demandé à tous nos présidents de ligue et de les relayer sur les comités départementaux d'ouvrir des formations, de faire plus de formations pour accueillir et accompagner, pour être opérationnel très rapidement, des nouveaux éducateurs. Et j'ai demandé à la directrice technique nationale que nos services à la fédération suivent pour dédoubler nos formations s'il le faut, parce qu'on a besoin, s'il y a un afflux massif de licenciés, et il y a un afflux massif de licenciés, il nous faut des éducateurs très rapidement. Donc on va faire au mieux sur une campagne nationale et en multipliant nos formations.
Le message est lancé, hein. Si vous êtes éducateur, la Fédération française de volleyball vous attend.
Mais il y a une compétence technique à avoir pour être éducateur en volley. C'est pas un sport simple techniquement.
Pour être entraîneur, il y a une compétence technique, mais on peut l'acquérir au sein des formations. Mais au départ, sur les plus jeunes, on parle d'initiation, des fois un peu de motricité. Et je pense que n'importe qui, avec de la bonne volonté et un peu de passion, peut se former pour encadrer des séances de volleyball pour les tout-petits.
Philippe Bana, président de la Fédération française de handball. Les premiers chiffres du hand en ce début de saison. Alors on sait qu'il faut attendre souvent le mois de décembre pour avoir vraiment des chiffres un peu plus costauds, pour savoir où en sont les licenciés. Mais il y a un frémissement, ça reprend après un an et demi de pandémie.
Oui, on avait perdu jusqu'à 20% de nos licenciés. Ça représentait à peu près 100 000 licenciés, ce qui pour la Fédération de hand est énorme. C'est le turnover annuel. Aujourd'hui, on est à plus 6, plus 7%. On a plus de 50 000 créations, en fait, des jeunes qui arrivent, ceux dont vous avez parlé tout à l'heure dans l'enquête, ceux qui ont eu, ce qu'ont vu la vitrine des Jeux Olympiques et qui viennent voir ce qui se passe. Donc, le début de saison est un rattrapage vis-à-vis de 2020, c'est clair. Par contre, le gap qui avait déjà été franchi en 2019, et ça, tous les sports co, tous les sports d'intérieur, Eric et tous les amis, on est dans la même difficulté. On l'a pas encore rattrapé. On est simplement en train de redécoller par rapport à 2020. Un autre chiffre aussi intéressant, c'est cette diminution de 5% de dirigeants que soulignait Eric Tanguy. Aujourd'hui, les Jeux Olympiques sont une vitrine. Ils font venir les licenciés, ils font adhérer. Et après, une fois que la vitrine a fait son effet, il faut que l'arrière-boutique, le club, le lien social, la qualité des pratiques, la diversification des pratiques. Au handball, on fait du baby handball, on a distribué 500 terrains de beach handball dès le mois d'avril pour jouer tout l'été. Ils ont gardé le lien social avec les clubs. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui vont faire que l'effet JO va se transformer en effet permanent.
C'est bien, vous m'avez parfaitement tendu la perche pour relancer Charles-Henri Bernardi. Vous êtes le directeur du PUC, le Paris Université Club. La pandémie, vous avez coûté cher, vous aussi, hein, 9000 adhérents. Vous êtes tombé à 6000, moins 30%. Mais comme le disait Philippe Bana, il faut se réinventer. Et vous, vous vous réinventez dans votre club.
On essaie de se moderniser et de faire différemment, puisqu'on a de nombreuses personnes qui ne sont pas revenues et on s'est demandé comment on pouvait les faire venir dans notre club. Et le sondage qu'on a entendu sur les 8% de personnes qui veulent essayer un sport nous a donné une idée, c'est de proposer du sport à la carte. Alors, je vais pas forcément être toujours en accord avec les présidents des fédérations qui cherchent des licenciés, mais notre idée a été de proposer aux adhérents de venir essayer des sports fédéraux. Donc, une fois, deux fois, alors pas pour faire un cours d'essai après pour s'abonner à l'année, mais vraiment se choisir un jour de l'escalade, un jour du handball, un jour du volley, un jour de l'athlétisme. Et le pari qu'on a fait, c'est que en picorant comme ça à gauche à droite, ils vont accrocher à un sport et ils vont ensuite prendre une licence et s'engager dans ce sport. Parce que on a constaté avec le Covid que les gens, notamment dans les sports de salle, qui ont perdu 2 ans de pratique en ayant payé une cotisation à l'année, selon les clubs, il y a eu des remboursements, pas de remboursements, et ben, se sont dit on ne veut plus s'engager comme avant, et puis on ne veut plus prendre le risque de payer une cotisation annuelle, de payer une licence fédérale, même si c'est du sport loisir, hein, puisqu'il y a du sport loisir dans les fédérations, et du coup on ne viendra pas cette année. Et nous, on leur a proposé cette offre qui leur permet de même d'essayer l'escrime. Enfin, voilà, pour 10€ ou 12€ la séance, vous avez des maîtres d'armes qui sont formés, qui sont diplômés, vous avez tout l'équipement et vous venez essayer l'escrime. En plus, on a la chance d'avoir des champions au PUC, donc c'est pas mal. Voilà, donc on le fait sur plusieurs disciplines et on fait le pari que ça amènera des personnes à pratiquer, alors peut-être à picorer dans plein de sports, mais peut-être aussi à s'engager sur du plus long terme et sur du sport fédéral. Et puis ça nous permet de découvrir des talents, parce que les talents des sports de demain, c'est on les trouve petits, jeunes, mais parfois vous avez des adultes, des bonnes surprises qui arrivent et qui se retrouvent être de très très bons sportifs.
Oui, des grands talentueux même.
Exactement.
Merci beaucoup. Vous écoutez RTL, il est 19h48. Restez avec nous. Hein. Dans un instant, nous ouvrons le volet délicat des conséquences quand même de la pandémie et du pass sanitaire dans les clubs.
On refait le sport sur RTL avec le Parisien, aujourd'hui en France, Isabelle Langer.
C'est la catastrophe. Franchement, quel impact sur le long terme sur ces gens-là? C'est le moment où ils sont en train de se constituer. C'est le moment où on accroche vraiment et où on fait du sport toute sa vie, où on n'en fait jamais de sa vie. Je rappelle que là, on parle de la partie sanitaire, mais le sport, c'est aussi des valeurs. Ça, ne pas avoir eu ces valeurs-là, on va sans doute aussi le payer, malheureusement. Parce que les notions de solidarité, de respect de l'autre, de respect de l'arbitre, de le respect de l'autorité, ce sont des éléments qui sont quand même essentiels.
Guillaume Trutman, le président du PUC, est en effet inquiet. Inquiet parce que les 15-18 ans qui ont été privés de sport pendant un an et demi à cause de la pandémie, eh bien ces 15-18 ans ont bien du mal à se remettre au sport. Et le pass sanitaire, il faut le dire, n'aide pas. Un exemple, dans l'Est, la Ligue de foot annonce une perte de 10% de licenciés sur cette tranche d'âge et l'impute au pass sanitaire. J'ai une question, Philippe Bana. Vous, le président de la Fédération française de hand, sport de salle, on sait que les sports de salle sont impactés par ce pass sanitaire. Est-ce que là, ce ne vous met pas en rogne que ce pass sanitaire soit obligatoire dans les clubs alors qu'il n'est pas obligatoire pour les enfants pour faire du sport à l'école? Est-ce que le gouvernement doit le supprimer ?
On l'a évoqué avec des présidents de fédération et la présidente du comité olympique cette semaine avec le Premier ministre Jean Castex. On lui a redit que effectivement cette espèce de différentiel entre l'école et l'association sportive qui à un moment donné avait été équilibrée pendant la Covid et puis qui ne l'est plus aujourd'hui est un problème. Après, plutôt que de se plaindre, même si 20% des 12-17 ans ne sont pas vaccinés, il y a cette idée que le club est responsable, qu'il est responsable de son organisation. Certes, s'il y a beaucoup d'enfants qui aujourd'hui sont encore inquiets, particulièrement dans certaines cités, il nous faut aujourd'hui accueillir, convaincre, dire de venir, parce que ce pass ne va pas durer éternellement, parce que l'activité, c'est pas que de la consommation sportive, le président Dupuc l'a très bien dit, c'est un lien social, c'est une éducation. L'enjeu, c'est pas consommer un sport trois jours et puis s'en aller, c'est bien apprendre à vivre avec le sport, et il faut se battre avec cette génération d'ados qui a besoin de sport.
Philippe Bana, le pass sanitaire est donc peut-être un frein pour la pratique des jeunes, mais est-ce que c'est pas aussi, par exemple, pour un sport comme le handball qui se pratique en salle avec beaucoup de contacts, est-ce qu'on n'a pas, quand on est père de famille, peur que son enfant attrape le Covid aux faisant du hand, qu'il soit de retour à la maison malade, que la mère et le père soient obligés de le garder et donc de faire du télétravail? Est-ce que c'est pas aussi un impact à ce niveau-là pour la pratique des sports de salle notamment?
Bah, vous savez, les clubs ont été mis responsables par le gouvernement du contrôle. Ils ont une obligation de moyens et cette contrôle du pass sanitaire fonctionne. Donc les risques aujourd'hui, on le voit bien, sont très faibles. L'enjeu, c'est la vaccination des derniers échantillons et les catégories de 12-17 ans notamment, qui ont effectivement, qui sont ceux qui décollent le moins dans cette reprise du mois de septembre. On voit bien que les 3-12 ans sont à plus 20%. On voit bien qu'au-dessus, ça monte aussi. Là, il y a une espèce de stagnation. Dès que ce pass sanitaire va disparaître ou que la vaccination va encore progresser, la peur n'y est plus, ne vous inquiétez pas, les clubs font très bien leur travail.
Éric Tanguy, président de la Fédération française de volleyball. On sait aussi qu'il y a des clubs qui ont fermé leurs portes en volley parce que les salles ont été réquisitionnées pour les vaccinodromes. Alors ça ne va pas forcément perdurer, mais la rentrée, elle va être passée.
Ah, pour ces clubs-là, malheureusement, j'ai quelques exemples dans les Alpes-Maritimes. Un exemple à côté de la maison où en fait, c'est une petite ville. Voire gros village, où en fait le gymnase c'est le lieu pour la vaccination, et la vaccination est un enjeu national prioritaire aujourd'hui, ben, le choix a été fait de fermer le sport pour un an, et si le club doit redémarrer en janvier, il aura d'énormes difficultés.
Est-ce que Éric Tanguy ou Philippe Bana, vous avez dans vos sections aussi des problèmes pour créer des équipes en football? C'est le cas dans le sud-est où les adolescents sont le moins vaccinés, ils ont du mal à créer des équipes et du coup à relancer les championnats.
Alors nous, oui, souvent il y a là en extérieur, il y a de des difficultés pour ça. Aujourd'hui, une équipe, ça se constitue à partir de 7 joueurs, sans doute de 6 joueurs au volley. Quand on en veut une deuxième, on est toujours un petit peu borderline. Je crois que un des freins majeurs à tout ça, c'est aussi les installations sportives. Eric l'a dit tout à l'heure. On a besoin, et je crois que le président de la République annoncera des choses, je l'espère, très fortes ce jeudi concernant un déploiement d'installations sportives. On est au plein, on a besoin de créneaux supplémentaires parce que l'offre générée, vous l'avez dit tout à l'heure, par les Jeux Olympiques, elle est là, la demande est là. Les gens ont envie de jouer, il manque d'espace pour jouer, c'est très clair.
Alors, je vous conseille d'ailleurs la Tribune du Monde du jour de l'entrepreneur David Blau et de la chercheuse Carole Gomez. Ils interpellent les candidats et candidates à la présidentielle sur leur vision de la place du sport dans notre société de demain. Il y a un chiffre, hein. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la progression de la sédentarité et de l'inactivité physique constitue une véritable bombe à retardement sanitaire. C'est ce que disait d'ailleurs Guillaume Trutmann, le président du PUC, hein, et représente l'une des plus grandes causes de risque de mortalité liées aux maladies non transmissibles. La France est classée 119e mondiale sur 146 dans cette étude en matière d'activité physique des jeunes à l'échelle mondiale. C'est catastrophique ça quand même. Philippe Bana.
Oui, on a envie vraiment de dire aux candidats à la présidence de la République, bon sang, emparez-vous du sport, rendez-vous compte de ce que ça représente en termes d'éducation, de santé, de solutions aux problèmes de la société actuelle, à la sortie du Covid, à toute cette violence qui existe. Oui, les éducateurs de volley, de basket, de hand, ils sont capables de faire ça. Ils sont capables de réapprendre le chemin de l'équipe, de la vertu, de dire bonjour, de dire bonsoir, de dire merci, de se trouver un idéal dans la vie. Donc voilà, il faut impérativement que les politiques s'emparent de ça. Il y a aujourd'hui un décalage entre les discours et ce que représente sur le sport et la santé qui est criard. Il est temps de réagir.
Notamment, les enfants font beaucoup de jeux vidéo, ils sont dans leur canapé. Vous encore une fois, Charles-Henri Bernardi, au PUC, vous avez créé une section e-sport. Alors quand on ne connaît pas l'e-sport, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là-bas ?
Alors, l'e-sport, c'est la pratique du jeu vidéo en compétition. Donc on s'est appuyé sur cette discipline pour amener des enfants qui n'étaient pas sportifs à pratiquer un sport au PUC. Le deal qu'on leur a demandé, c'est vous avez 1h30 de e-sport encadré par un éducateur. Avec le modèle sportif, apprendre à progresser sur un jeu, apprendre à se concentrer, apprendre à respecter le partenaire avec lequel vous jouez. Et après 7h30, vous avez 1h30 de sport obligatoire. Alors, un des avantages qu'on a au PUC, c'est qu'on a une multitude de pratiques sportives. Mmh. Et un gamin, on lui dit pas, tu vas juste jouer au foot ou juste jouer au basket. Voilà, il a le choix entre judo, basket, volley, athlétisme, escrime.
Et ça marche.
Les enfants sont preneurs. On a même des enfants qui n'étaient pas du tout sportifs, qui sont venus prendre une licence fédérale suite à ces cours réguliers d'une heure et demie par semaine. Et donc, on fait des cours en plus.
Dernier volet que je voulais aborder quand même, celui du bénévolat. Éric Tanguy, est-ce qu'il y a une crise du bénévolat dans les associations sportives et dans les clubs aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on a constaté, c'est un retour général qu'on a eu du terrain, qu'un certain nombre de bénévoles se sont désengagés des clubs durant la crise de la Covid. Et aujourd'hui, peut-être parce qu'ils ont peur de revenir dans un endroit où il y a beaucoup de monde.
Et puis ils ont
peut-être
appris à faire autre chose le week-end.
C'est ça. Parce qu'ils ont découvert qu'ils pouvaient faire autre chose de leur vie et peut-être se refermer un petit peu sur eux-mêmes. Il y a aujourd'hui un manque de bénévoles et justement qui tombe avec le moment où on demande encore plus au club, puisque que ce soit, comme l'a souligné Philippe, au basket, au hand ou au volley et aux autres sports, on demande le contrôle des passes sanitaires, donc on demande du travail. On a une obligation de moyens supplémentaires en ayant moins de bénévoles. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Fédération française de volleyball, on a voulu lancer un appel à bénévoles et on offre 10 licences dirigeants à chaque club fédéral, justement, pour inciter des gens à venir et ne pas avoir de frein de payer une licence. Venez, la licence vous est offerte cette année. Venez aider le club à contrôler les passes sanitaires, à monter les terrains, à encadrer les jeunes. Voilà.
C'est tout. Une crise aussi que l'on sent au handball, Philippe Bana ?
Oui, c'est une crise qu'on sent partout, parce que je pense que les gens ont perdu l'habitude de militer, d'adhérer, d'aller dans une association sportive pour donner un coup de main, se sont un peu évaporés pour une petite quinzaine de pourcents d'entre eux. Aujourd'hui, oui, il faut faire ce que vient de dire Eric. Nous, on va lancer un gros programme de jeunes dirigeants et jeunes arbitres pour aller chercher parmi les joueurs,
crise,
les gens qui encadreront.
L'arbitrage aussi, c'est une crise. Hein.
Oui, c'est la même crise que celle du dirigeant, c'est-à-dire dès qu'il faut militer, adhérer, s'occuper d'eux, encadrer, il y a un peu moins de force que l'on avait avant. Or, le monde associatif ne repose quasiment qu'à 80% là-dessus. Peut-être que plus d'apprentissage, c'est ce qu'on a essayé de faire à la Fédération française d'handball avec 200-300 apprentis déjà dans les tuyaux, avec des lois qui sont favorables, mais aussi relancer du bénévolat, comme vient de le dire Eric, ou encore créer de l'emploi, parce que encadrer le sport, c'est un enjeu de demain.
Charles-Henri Bernardi.
Oui, je pense qu'il faut aussi savoir valoriser les bénévoles. On a perdu ce goût de la valorisation. Alors, il y a un moment, il était question de donner des
C'est pas simplement tenir la buvette samedi.
Non,
hein.
Il faut donner un sens à ce que fait le bénévole, et il faut l'intéresser. Et peut-être que les clubs de sport doivent diversifier aussi leurs activités et leurs actions. Il faut savoir interagir avec d'autres milieux, des milieux culturels. Pourquoi un bénévole qui vient dans un club de hand ne pourrait pas se voir offrir une place de théâtre ou de cinéma dans la ville dans laquelle il intervient ? Parce que peut-être que c'est le théâtre et le cinéma les intéressent. Et il faut savoir se réinventer. Et je crois que le sport a beaucoup à faire là-dessus pour évoluer demain et être un peu plus encadré et trouver de nouveaux sportifs.
Merci beaucoup Philippe Bana, président de la Fédération française de handball. Bonne soirée à Marseille.
Merci.
Merci Éric Tanguy, président de la Fédération française de volleyball.
Merci.
Bonne entrée. Hein.
Merci beaucoup, merci pour votre invitation.
Merci Charles-Henri Bernardi. Plein de belles choses au PUC cette année.
Oui, on va continuer sur cette lancée.
Bonne soirée à vous tous. Merci Quentin, merci à Spencer et Maxime pour la réalisation. Dans un instant, vous retrouvez Eric Silvestro et Giovanni Castaldi pour RTL Foot et avec bien évidemment la finale de la Ligue des Nations entre la France et l'Espagne.
RTL, on refait le sport avec Le Parisien aujourd'hui en France.